1-888-971-1021. Pascal, je sais que tu regardes une fois de temps en temps la politique internationale. J'imagine que tu suivais pas mal ce qui se passait aux États-Unis hier. C'était le super mardi. Il n'y a personne qui était ben excité de l'issue de ça. On la connaissait d'avance.
Personne qui était vraiment surpris, disons-le, comme ça. Excité, s'il y avait eu des changements à ce qu'on avait prédit, oui. Parce que ça aurait mis un petit peu de pep dans cette course-là où il manque un peu de, je sais pas moi, chaleur politique, intérêt politique et non chicane, bisbille ou encore problème de santé. Tu sais, moi, quand on est rendu en politique américaine à parler de chicane, bisbille et problème de santé, je me dis, on a perdu un peu.
On a le plaisir de jaser chaque semaine avec notre chroniqueur international, Louis Gauthier. Salut, Louis!
Hey, bonjour, Québec, en direct du Festival de l'Auto, du Salon de l'Auto.
T'es dans quel pays, là, présentement, Louis?
Bien, au Canada, à Medicine Hat, parce que là, c'est la période de dégel qui a frappé la province de Québec depuis le 4 mars, depuis lundi. Et là, on doit vérifier l'ensemble des poids des chargements, donc ça doit diminuer de 10 %. Puis là, bien, ça se trouve être des pommes de terre qui sont chargées en vrac dans des remorques de 53 pieds qui s'en vont chez McCain à Grand-Sault, au Nouveau-Brunswick.
OK. Puisque tu m'ouvres la
porte, faire très
là,
attention.
Ouais, tu m'ouvres la porte sur les variations de température. Là. Actuellement, ce qu'on connaît au Québec, là, y a-tu... est-ce que vous avez reçu, je sais pas moi, des lettres de Transport Québec pour dire que le camionnage, falloir surveiller le poids parce que c'est un printemps qui est hâtif?
Non, bien, c'est pas ça. C'est les dates qui risquent de varier d'une semaine à peu près à chaque année et qui peuvent prolonger d'une semaine par zone parce qu'au Québec, il y a trois zones de dégel. Là, on est en train de vivre la première zone qui est vraiment notre hémisphère, là, Québec, Montréal, Québec, et je te dirais jusque dans le coin de Rimouski. Après ça, ça se trouve être la zone 2, puis la zone 3 qui est plus au nord comme la baie James, autrement dit. Donc, la date peut changer, mais là, ça a commencé cette année et on la prévoit. Donc, ce qui peut changer à partir de ce moment-ci dans la zone 1, c'est la date de fin de la période de dégel où elle sera prolongée ou raccourcie d'une semaine ou rallongée d'une autre.
Puis là, tes impressions pour Québec? Parce qu'en fin de semaine, à Québec, il faisait autour de 10-12 degrés. Là. J'imagine que ça a commencé à dégeler pas pire. Pour les poids lourds qui passaient, ça se peut que ça fasse un peu plus de dégâts qu'escompté.
Pas nécessairement, parce que Yannick, faut comprendre qu'en sous le sol, c'est encore gelé. Mais c'est pour ça qu'on diminue le poids des remorques de 10 % de chargement. Mais le mal est fait parce que, veut pas, la Transcanadienne dans la province de Québec, c'est le hub du transport dans l'Est qui amène tout le transport qui vient de l'Ontario, de l'Ouest canadien et des États-Unis pour se rendre vers le Bas-Saint-Laurent, pour se rendre vers Terre-Neuve-Labrador, pour se rendre vers les Maritimes souvent. Donc, c'est normal qu'on n'ait plus sujet. Puis c'est la seule place au Canada où on a justement ce facteur-là de période de dégel pour essayer de sauver nos routes. Mais faut que tu comprennes, Yannick, que les routes au Québec, ils ont manqué d'amour depuis une quarantaine d'années. Donc, ça fait partie de l'équation. C'est pas seulement le transport lourd qui crée le problème. C'est l'entretien des routes qui a été déficient depuis une quarantaine d'années.
Oui, effectivement. On revient aux États-Unis. Hier, c'était le super mardi. Qu'est-ce que ça représente, en gros, pour la présidentielle, le super mardi?
Bien, c'est le retour en force de la gérontocratie. Les vieillards qui prennent le pouvoir.
Ben oui.
Oui, écoute, quand tu regardes au niveau du pouvoir gérontocratique qu'il y a partout dans le monde... Joe Biden puis Donald Trump, c'est encore dans les plus jeunes, parce que Paul Biya a 91 ans au Cameroun, Michel Aoun au Liban a 90 ans, et Alassane Ouattara, le président de la Côte d'Ivoire, même si son épouse est très jeune, a 82 ans. Alors, on se retrouve avec des vieillards qui veulent diriger des pays. Et peut-être que la population se retrouve justement dans cette sécurité paternelle-là, compte tenu de l'incertitude de la sécurité au niveau du globe.
Ouais, c'est un bon point, mais tu sais, moi, je me répète, là, j'ai aucun problème à ce que des hommes et des femmes de 50, 60, 70, 80 ans dirigent le monde. Mon problème, c'est à partir du moment où quelqu'un a des troubles cognitifs, puis là, on s'aperçoit que les deux semblent en avoir à présidentiel.
Moi aussi, je partage ton opinion.
À présidentiel, là, moi, ça va pas. Puis il devrait avoir des tests pour ces gens-là qui dirigent le monde année après année. Si ça va pas entre les deux oreilles, bien, désolé, tu dois être remplacé, là.
Bien, écoute. Tu dois être remplacé. Il y a des amendements dans la Constitution américaine qui sont prévus pour ça. Malheureusement, c'est un rematch qu'on a présentement à Washington entre Trump qui disait qu'il s'était fait voler la victoire en 2020. Puis là, bien, on se retrouve en 2024 avec un rematch où il y a de fortes chances qu'il va remporter la Maison-Blanche. Comme je l'avais déjà dit dans une chronique plus tôt il y a quelques semaines, si on avait réélu Donald Trump en 2020, ben on ne serait pas en train de régler ce problème-là de vieillard en train de se battre. Donc, maintenant, où il risque de gagner des points, Donald Trump, ce sera sur son ou sa colistière. Et ça va être important parce que s'il va la chercher plus jeune ou plus jeune, ben ça devrait donner aux républicains un autre mandat et peut-être 8 années de pouvoir supplémentaire après le départ de Donald Trump en 2028.
Un deuxième souffle. Mais en même temps, si on avait réélu Donald Trump aux États-Unis après tout ce qu'on a vu avec l'assaut au Capitole et tout, moi, j'aurais été un peu découragée. La pause qui a été mise, en fait, puis le changement de politique a fait grandement du bien aux États-Unis. Mais le problème, c'est plutôt le cognitif de Joe Biden, parce que si on avait eu un leader qui était toute là, qui était capable justement de gérer à la hauteur de ce qu'on a vu auparavant, on aurait été dans une ère, en fait, de renouvellement. Puis ça ne veut pas dire que Trump aurait gagné aux prochaines élections, là.
Pascal, souviens-toi ce que je t'ai déjà dit, c'est que la présence de Joe Biden était une présence honoris causa. Et le deep state aux États-Unis, c'est pas rien, c'est pas des histoires à dormir debout. Le deep state existe. Ça se trouve, la famille Clinton, elle est très importante à l'intérieur même du Parti démocrate, comme Trump l'est au niveau républicain. On dirige beaucoup. Il y a beaucoup de Hillary Clinton derrière le bureau ovale au niveau de la direction. Il y a beaucoup, on voit beaucoup de sa politique. Puis, malheureusement, Joe Biden est comme la marionnette à la Maison-Blanche, puis on commence vraiment à en parler beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, ça démontre que c'est pas le président qui est là, qui dirige, mais c'est peut-être un pouvoir parallèle qui est derrière. Puis ça, on s'en rend compte de plus en plus. Et les Américains n'aiment pas ça, compte tenu de la situation mondiale et compte tenu du lustre qui s'opère au niveau de la notoriété américaine dans le monde pour régler des problèmes. Et là, ben on va régler ça, puis on va le voir. Mais comme tu le dis, Pascal, si c'était arrivé il y a 4 ans, ben on ne serait pas en train de parler de ça parce qu'on aurait du 109, comme je l'ai déjà dit, à l'élection de novembre.
Nikki Haley, comme on s'y attendait, a mangé une sévère rincée. Je pense qu'elle aussi s'y attendait. Elle a décidé de laisser tomber sa course à la présidentielle. Toi, tu t'attendais à ça, bien entendu. Qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur sa carrière? Est-ce qu'elle pourrait être là après le mandat de Trump, si Trump fait son mandat comme président? Est-ce qu'elle pourrait se représenter à ce moment-là ou elle pourrait être vice-présidente dès le mandat de Trump?
Et ça dépend quelles sanctions Donald Trump va lui faire subir. Là, présentement, c'est un choix très stratégique qui va se passer concernant le colistier de Donald Trump. On parle beaucoup de Carrie Lake, qui est cette ancienne présentatrice de télévision en Arizona. C'était d'ailleurs elle qui s'était présentée pour le poste de Sénat dans l'Arizona, mais qui avait été défaite par Kathy Hobbs, qui est la sénatrice de l'Arizona, la démocrate présentement. Donc, on parle de Carrie Lake. On parle beaucoup de Vivek Ramaswamy, un ancien candidat républicain, il y a 38 ans. C'est un pro-Trump, il défend beaucoup. Mais, c'est un homme d'affaires qui est un multimillionnaire, là, qui a travaillé beaucoup dans la biotechnologie. Il y a Chris Christie, l'ancien gouverneur du New Jersey, qui revient souvent. Et il y aurait peut-être Nikki Haley. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Ça dépend comment il va jouer la partie. Est-ce que le message de Nikki Haley a énormément transcendé les cinq portes du Great Old Party, le républicain? Est-ce qu'on va dire à Donald Trump, bien, ça serait peut-être bon parce que vu qu'on a les musulmans qui sont en train de se détacher, vu qu'on a les jeunes qui sont en train de se détacher de Biden, vu qu'on a les femmes noirs aux États-Unis qui sont en train de se détacher, est-ce que Nikki Haley pourrait aller chercher ce vote-là, le vote qu'on pourrait appeler modéré, et l'amener à l'intérieur même du Parti républicain, ce qui viendrait donner des points à Donald Trump, parce que, veut pas, à l'échelle nationale, Trump mène pour à peu près 2,5 % concernant Biden. Alors, on voit que c'est pas gagné, là, au niveau des présidentielles.
Non, effectivement, effectivement. Mais elle est restée là le plus longtemps possible, j'imagine, pour augmenter sa visibilité, pour essayer de faire passer ses messages. Tu sais, elle n'a pas été... est-ce qu'elle a été bonne concurrente à Trump? Il y en a qui vont dire que Trump aime bien ça se faire challenger, le traiter de vieux une fois de temps en temps. Je pense pas que Trump y en tienne rigueur tant que ça.
Bien, on dit beaucoup qu'il a la vengeance assez forte. Mais c'est un esprit calculateur. Il ne faut pas oublier que c'est un homme d'affaires. Donc, ça revient à ce que je disais tantôt. Puis, Nikki Haley, veut pas, elle rejoint des courants de pensée, comme Pascal l'a dit tantôt. Les jeunes, si on avait eu des gens comme ça au début, est-ce que ça aurait aidé, ça aurait apporté du sang neuf? Donc, si Donald Trump calcule bien son plan de match, bien, ça serait probablement une des personnes. Ron DeSantis, moi, je vous pose plus de questions concernant Ron DeSantis. Est-ce qu'il va avoir une place dans le cabinet de Donald Trump lorsque celui-ci sera président des États-Unis? Je ne crois pas qu'il va être un vice-président. Moi, je crois qu'il va y aller plus d'un côté féminin. Je pense beaucoup donc à Carrie Lake, puis je pense beaucoup à Nikki Haley, ou chez les gars, bien, aller viser la jeunesse avec Vivek Raswamy. Alors, on va voir ce qui va se passer. Mais concernant Nikki Haley, ça va dépendre quelles sanctions Donald Trump va lui imposer. Puis moi, bien, je pense, en étant un homme d'affaires, ça sera un... À tout le moins, si elle n'est pas vice-présidente, elle va se retrouver dans le cabinet, puis il va y avoir sûrement des négociations qui vont se faire au cours des prochaines semaines. D'ailleurs, la semaine prochaine, bien, c'est la Géorgie et la Floride. Alors, ça va se carrer assez fort de ce côté-là. Ça va venir confirmer. Puis, si Donald Trump est capable de s'asseoir avec Nikki Haley et que celle-ci puisse le confirmer dans sa fonction de chef du Parti républicain pour la présidentielle, bien écoute, là, ça va démontrer que Donald Trump est ouvert, Donald Trump est avant-gardiste, Donald Trump regarde vers l'avenir et Nikki Haley, à l'âge qu'elle a là, pourrait faire encore 8 ans.
Exact. Tu voulais nous parler d'une poursuite contre le fédéral concernant les armes?
Ben oui. C'est un regroupement d'avocats. Je vais vous épargner les noms parce qu'on en parle déjà beaucoup, mais c'est une tendance qui a à travers le monde. C'est un groupe ayant la tête des intérêts palestiniens, des intérêts musulmans, qui finance ces genres de poursuites-là, qui ont attaqué la France, qui ont attaqué l'Italie, qui ont attaqué l'Espagne, qui ont même attaqué l'Allemagne et qui, là, s'attaquent au Canada. C'est-à-dire que le Canada n'a pas d'usine de fabrication d'armes. Au Canada, on a des entrepreneurs qui ont des usines de fabrication d'armes, qui sont inscrits sur le registre des lobbyistes à Ottawa et qui obtiennent des contrats avec le gouvernement pour la vente d'armes à l'extérieur, puis doivent obtenir la permission du gouvernement pour vendre les armes à l'extérieur du pays. Donc, le Canada et les pays que je vous ai nommés sont comme ça. Et là, il y a eu plusieurs poursuite, tout ça étant relié avec ce qui se passe dans le conflit israélo-palestinien. Parce qu'on trouve que là, les Israéliens poussent un peu trop la note concernant le Hamas, concernant le territoire de Gaza. Et toutes les armes qui sont fournies à Israël sont fournies par les entreprises, par les pays que je vous ai donnés. Donc, on poursuit le gouvernement pour les empêcher de donner la permission de vendre ces armes-là à ces compagnies-là. Donc, c'est de cette façon-là. Puis là, bien, on voit dans les chartes, dans la Charte des droits et libertés canadiennes, dans les chartes de droits internationales, et là, bien, Mélanie Joly qui est la ministre des Affaires étrangères au Canada, est pognée avec cette poursuite-là. Puis c'est très sérieux parce qu'écoute, ça a gagné. Je sais qu'ils ont réussi en Italie puis qu'ils sont sur le point de réussir en France. Alors, est-ce que ça va donner quelque chose? Est-ce que là, Israël va se retourner vers les marchés noirs? On ne sait pas.
Tu as l'air sceptique, Louis, quant à la discussion avec le Canada ou encore le, entre parenthèses, bras de fer que le Canada pourrait avoir dans ce dossier-là comparativement à d'autres pays?
Sceptique?
Ouais.
Bien, je suis sceptique parce que le Canada joue sur les deux façades. OK, là, vois-tu, il y avait cette agence d'aide-là à qui on avait coupé le financement, que là, on vient de reprendre le financement hier soir. Et on a cette poursuite-là du côté des armes. Puis les armes qu'on fournit au Canada, bien, ce sont c'est plus des armes technologiques, c'est-à-dire les modules qu'on met dans les missiles balistiques et tout ce genre d'armes à courte et moyenne portée. Alors, c'est ce qu'on fabrique beaucoup au Canada. Et là, ben, on demande au Canada de cesser. On s'adresse à la Cour fédérale, c'est pas rien, là. De cesser cette permission de vendre des armes à Israël. Il faut comprendre que c'est les Palestiniens. C'est vraiment un lobby musulman qui est derrière. Donc, c'est pas la Cour internationale de la Haye, c'est pas l'OTAN, c'est pas l'ONU qui est derrière cette demande-là. Donc, c'est une poursuite. Puis, je veux rassurer les auditeurs, là, c'est pas la seule poursuite que le Canada a contre lui. Là. Il y a celle-là, il y en a qui traînent dans la COVID, il y en a qui traînent encore des camionneurs. Il y en a un paquet. Là, celle-là, ça n'est juste une autre. Les histoires d'avortement au Canada, je pourrais vous en compter là, un livre plein là, de poursuites qu'il y a contre le fédéral présentement. Il y en a même une concernant l'immigration. C'est pas rien. Alors, oui, je suis sceptique. Est-ce que ça va? Ça risque de traîner en longueur. Est-ce que ça va donner quelque chose? Je le sais pas. Moi, je serais très, très surpris parce qu'il faut arriver avec des faits. Il faut s'assurer que les armes qui sont vendues à Israël ont tué vraiment des personnes exactes sur le territoire du Hamas. Donc, il faut arriver avec des dates, des noms, des... Tu sais, il y a un paquet de facteurs lorsqu'on arrive avec la divulgation de la preuve. Tu sais, on ne peut pas empêcher personne de poursuivre, là. C'est sûr et certain, mais il faut que tu arrives avec la viande autour de l'os quand c'est le temps de poursuivre et de t'asseoir devant le juge.
Exact, exact. Question d'auditeur, Louis, après le super mardi où on s'est rendu compte que c'était Biden et Trump, tout simplement, est-ce qu'il reste quelque chose d'excitant à voir pour ce qui est de la course à la présidentielle américaine?
Bien oui, il y a les 91 chefs d'accusation retenus contre Donald Trump et il va avoir un mois de juillet occupé, mais ça risque de tout tomber. Puis moi, je pense que ça va tomber compte tenu de la décision qui a été rendue par la Cour suprême concernant... ce qui s'était passé au Colorado, qui avait retiré son nom du billet de vote. Alors, la Cour suprême s'est prononcée. Puis, c'est pas rien, là, c'est 9-0 là, dans la décision des juges de la Cour suprême. Alors, maintenant, Donald Trump a déposé devant la Cour suprême une demande, justement, pour faire radier l'ensemble des poursuites. Donc, c'est la clause d'inhumité qui est conférée au président et ancien président. On vient effacer justement sa responsabilité envers le 14e amendement. Et la Cour suprême va se prononcer. Puis en se prononçant, tous les 91 chefs d'accusation ou causes pendantes devant la Cour vont fondre comme neige au soleil. Ça va arriver au mois de juillet.
Louis, je te souhaite de passer une belle semaine. On se rejase la semaine prochaine.
Sans problème, puis bonne journée au Salon de l'Auto, les amis, parce que moi, je prends possession de ma Mustang électrique vendredi.
Oh! C'est un bel achat. J'ai hâte de voir qu'est-ce que tu
en penses. Moi, ça tombe bien parce que j'ai mon Labrador chocolat, qui est connu mondialement. Il s'appelle Shelby. Donc, il manquait la Mustang à Shelby.
Oui, exact.
Ben, la Mustang Shelby,
qui aura notamment 60 ans cette année, la Mustang.
Exact.
Ça tombe bien parce qu'elle date de 1964 et j'aurai 60 ans cette année. Donc, c'est un mariage parfait.
Pascal me demandait tantôt c'était quoi le véhicule que j'aimerais avoir. Ben Mustang Shelby, tu sais, les vieux chars avec de la personnalité, là, avec quelque chose de gros sous le couvert, c'était le fun en maudit. Aujourd'hui, tous les véhicules se ressemblent. Des fois, ça me rend dépressif, là. Mais il y a des véhicules quand même ici au Salon de l'Auto qui sont assez uniques, là. Je vous invite à venir les voir. C'est de toute beauté. Puis Louis, j'aurais aimé ça que tu sois là pour que je puisse te serrer la pince en personne.
Puis Louis, il va falloir t'acheter des lunettes à ton chien si tu le mets dans ta voiture. Puis c'est pas une farce. Parce que
elle a déjà Pascal. Puis okay, c'est pas un chien Shelby, c'est Shelby. Tu vas la rencontrer. Je vais l'amener en studio lorsque je serai à Québec.
Ben oui, on aime ça. Salut!
OK, bonne journée tout le monde. Bye.
Bye-bye. Louis Gauthier, chroniqueur international à qui on a le plaisir de jaser chaque semaine. Nous, on